RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux, de les écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alain.
Ainsi qu'Antoine de Villepillière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Ritbaten, qui est président du directoire d'Inexenso. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, vous êtes né en 1964. Vous êtes diplômé notamment de Sciences Po Bordeaux de Dauphine avec un troisième cycle en audit. Votre premier job, racontez-nous, c'était quoi dans un petit cabinet d'experts comptables qui va se faire racheter par Deloitte?
Voilà, donc petit cabinet qui avait une particularité qui était que le fondateur était expert comptable et polytechnicien. Et son fils a repris lui aussi expert comptable et polytechnicien. Et à l'époque, année 86, le réseau polytechnicien, c'était quand même une valeur sûre. Mmh. Et donc,
ça allait toujours.
Il avait une clientèle donc, qui était, pour un petit cabinet, assez incroyable. Donc, une expérience très intéressante.
Alors, vous avez rejoint Deloitte en 1998, suite à un deuxième rachat, c'est ça?
Oui, donc c'est là où je me suis aperçu que, quel que soit le cabinet où j'allais aller, Deloitte allait racheter ce cabinet. Donc, à un moment donné, on est lassé de courir et donc...
Vous avez rejoint donc cette belle maison. Alors, racontez-nous un peu les coulisses. Il y a une scission en 2019 entre Deloitte et Inexenso?
Alors, ce n'est pas une scission, c'est un changement stratégique à la tête de Deloitte. Donc, le nouveau président élu en 2018 se dit Inexenso, c'est une grande activité, mais je ne vois pas beaucoup de synergie avec le reste de Deloitte. Et donc, pourquoi ne pas le vendre et, avec le produit de cette vente, pouvoir investir dans des activités de conseil grand groupe.
Et là, il y a beaucoup d'associés qui sont devenus partenaires, associés de cette nouvelle aventure entrepreneuriale, on va le signaler.
Alors, les associés étaient déjà... En fait, il y avait 235 associés qui étaient déjà actionnaires, mais ils étaient actionnaires à hauteur de 34%, à côté de Deloitte, qui avait 66%. Et ça a été l'occasion de passer de 34% à 70%. Ce qui fait quand même une légère différence.
Et Antoine, le financement, ça a été facile à trouver ou alors il a fallu ramer?
Non, ça a été très facile en fait. Pourquoi? Parce que la banque qui nous a fait confiance, en fait, voulait être à nos côtés. Et,
d'accord.
Et aujourd'hui, elle a 30%. Donc du coup, le financement n'était pas un sujet. Le sujet, c'était quelle part du capital et... Donc, le financement était facile suite à cet accord capitalistique.
Alors, on va parler un peu des métiers du groupe. Hein. C'est une belle société au total. Hein. C'est 460 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 5500 collaborateurs, Antoine?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, alors, c'est bien, mais le marché, on est sur un marché qui fait 15 milliards. Donc,
il y a une marge de progression.
Il y a une marge de progression et un marché où les trois premiers acteurs dont nous faisons partie, les trois premiers, font 10% du marché. Donc un marché où il y a encore un travail de concentration élevé à faire.
Arnaud.
Oui, puisqu'on parle d'argent, je vois que vous n'êtes pas allé voir un fonds, vous êtes allé voir une banque.
Alors, en fait, les fonds, d'abord, c'est pas moi qui allais voir dans un premier temps, normalement, puisque c'est quand même le cédant qui cherchait à vendre. Cédant s'est quand même aperçu qu'on était un animal un peu particulier, puisque nos activités d'expertise comptable sur des petits clients, le lien, il est quand même très fort entre l'associé et le client. Et donc, il a fallu quelques temps pour que tout le monde comprenne qu'une solution ne se ferait que si elle avait l'accord des associés. Mmh. Une fois que ça a été fait... les premières exigences que les associés ont données, ça a été de dire on veut être majoritaire et donc que ça soit un fonds ou pas, il faut qu'il accepte d'être minoritaire, sachant que de toute façon, du fait de la réglementation, même s'il était majoritaire en capital, il était minoritaire en droit de vote. Donc déjà, ça fait déjà une première sélection dans les fonds, puisque beaucoup de fonds n'aiment pas être minoritaires. Et puis, il fallait qu'il accepte aussi que dans notre organisation, même si il était en haut, on a en fait notre holding ne détient que 54% en moyenne de chacun de cabinets en région, et donc les associés sont en haut et en bas, pour qu'ils soient pleinement impliqués. Et là aussi, les fonds n'adorent pas d'avoir des minoritaires au niveau N-1 en ayant peur que...
Vous confirmez, Arnaud ?
Moi, je confirme que vous avez tout à fait la possibilité de venir voir des gens comme Généo qui travaillent en minoritaire.
Absolument.
Voilà. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous racontez, dans votre parcours, dans votre histoire, c'est que vous travaillez sur un matériau incroyable, celui des PME en France. Comment vous sourcez celles dont vous sentez qu'elles vont devenir des ETI, puisqu'on est sur Radio ETI ?
Alors, on est sur Radio ETI et en fait, je suis invité plutôt parce que Inextinso est une ETI, mais plutôt que mes clients sont deux ETI. Alors nous, notre marché, c'est plutôt les TPE que les PME. Hein, donc, on est sur une moyenne de 400 000 euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Mais l'avantage, c'est qu'on a 110 000 avec... certains vont se développer. Donc, certaines de nos clients, on les a connus tout petits. Et donc, si j'en prends un qui fait une des journaux un peu récemment, c'est Swile, qu'on a accompagné
bien sûr,
au début.
Montpellier, avec lui.
Et progressivement, nos services ont changé avec eux et on les a aidés dans d'autres choses. Quand on est une ETI, on est structuré au niveau de la comptabilité, de la finance. Donc, ils ont moins besoin de nous pour nos services traditionnels. Par contre, on a développé une activité M&A qui leur permet d'acheter ou vendre certaines activités. On a développé une activité autour de l'innovation. Et donc, c'est ces autres activités qu'au fur et à mesure que ces entreprises grandissent, elles font appel à nous et plus sur notre cœur de métier, notre activité traditionnelle.
Donc, vous les accompagnez quand même, Antoine. Antoine ?
Alors, bonjour. Ma première question, elle porte sur l'innovation. Alors, on parle énormément d'intelligence artificielle et de toutes ces applications possibles. L'une des applications qu'on imagine la plus immédiate, peut-être déjà en place ou en place dans le futur, ce serait sur le métier de l'expert comptable. Est-ce que l'expert comptable va être remplacé par une IA bientôt ?
Alors, bon petit robot, c'est sympa, bon petit robot.
Oui,
pas 35 heures, ça bosse tout le temps, c'est top.
Alors en fait, la question est intéressante, c'est-à-dire que ce n'est pas le métier d'expertise comptable ni l'expert comptable qui va être remplacé. En fait, c'est le métier de production des comptes, le métier de réglementation, de déclaration, etc. Mais aujourd'hui, notre métier, ce n'est pas cela. Notre métier, c'est d'accompagner l'entreprise et son dirigeant, puisque sur notre marché, il y a vraiment l'entreprise et le dirigeant, à toutes les étapes de sa vie, donc de la création jusqu'à la transmission, et de l'aider à passer différentes choses. Et la meilleure preuve a été pendant la période Covid, où tout le monde a eu besoin de son expert comptable, puisqu'on a la chance en France d'être dans le pays le plus compliqué au monde. Et donc, quand on sort une mesure pour aider ces entreprises-là, il faut de l'expert comptable pour expliquer à quoi j'ai le droit, comment ça marche, qu'est-ce que je dois remplir comme papier ? Et ça ne sera jamais un robot qui pourra le faire. Et donc on n'a pas effectivement d'inquiétude par rapport à ça. Ça va transformer nos métiers. Nous, on se dit que ça va nous gagner du temps. Aujourd'hui, on refuse des clients par manque de temps pour le faire et par manque de collaborateurs.
Aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie de talent, Antoine.
Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 5500 personnes. J'ai 400 postes ouverts. Et donc, 400 postes ouverts, si je les avais, je ferais plus de chiffre d'affaires, une trentaine de millions d'euros pour donner une idée. Donc mon principal sujet aujourd'hui, c'est que je manque de personnes. Donc, quelque part, l'automatisation, si ça me supprime un certain nombre de postes, ça va me régler déjà une partie du problème que j'ai. Le deuxième sujet, c'est que c'est une activité où il y a un turnover parce que faire ses débuts chez nous, c'est une signature pour un CV. Et donc, un certain nombre de nos collaborateurs nous quittent pour aller en entreprise après. Donc, là aussi, on est en train de parler d'une dizaine de pourcentages de turnover par an. Donc, je recrute 1000 personnes par an. Donc, il suffit de recruter un peu moins pour gérer aussi cet aspect-là. Ce que je veux, c'est par contre avoir plus de temps pour écouter nos clients et les aider sur tous leurs sujets administratifs. Aujourd'hui, un des sujets sur lesquels on essaye d'éveiller les consciences sur ses clients, c'est tout ce qui concerne la gestion des risques. Faire une cartographie des risques, voir un peu où sont ces risques, avoir des plans par rapport à ça. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le Covid a montré des entreprises moins bien préparées que d'autres. Les cyberattaques, là aussi, vous vous préparez plus ou moins bien. Donc, il y a tout un tas de choses. On peut parler aussi des approvisionnements. Et donc, tout ça, ça se prépare. Et identifier ces risques et avoir le plan B, avoir différentes choses, c'est typiquement quelque chose où on est légitime pour aider les entreprises. Mais je pourrais citer de même la RSE. La RSE, aujourd'hui, tout le monde en parle. Demain, il faudra faire certifier les déclarations des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est croyez-moi quand je dis que je fais tout ça. Je suis persuadé.
La confiance n'exclut pas le contrôle, mon cher Antoine.
Exactement.
Antoine 1.
Alors, c'est une super transition sur ma deuxième question qui porte justement sur la RSE. Aujourd'hui, quand on parle de RSE, la conjoncture fait qu'on a quand même très souvent tendance à penser immédiatement à la décarbonation. J'imagine que l'empreinte carbone des cabinets d'experts comptables, elle n'est pas monumentale, mais il y a d'autres choses qui sont incluses dans sous cette notion de RSE. J'ai vu que vous souteniez des associations autour de la création d'entreprises ou de l'aide au rebond. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces actions ?
Oui, donc en fait, il nous paraît logique de soutenir une cause qui est le prolongement normal de notre activité. Donc qu'est-ce qui nous fait vivre, nous, Inextinso ? Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui prennent des risques. Et donc, on va soutenir à la fois des jeunes, des femmes, donc tous ceux qui ont plus de difficultés à aller vers la création d'entreprise à porter leur projet. Et de l'autre côté, quand l'entrepreneur va bien, eh bien, c'est bien pour nous parce qu'il fait différentes choses et on en profite. Et donc, on s'est dit, il faut aussi être là quand l'entrepreneur va pas bien. Et d'où le fait d'être partenaire de 60 000 rebonds qui aident l'entrepreneur
en échec.
Qui est en échec pour justement l'aider. Et ce que j'aime avec cette association, c'est que la plupart soit rejoignent le marché du travail, soit remontent une entreprise. Et quand ils remontent une entreprise, ils sont beaucoup plus forts sur ce deuxième projet, forts de cette expérience. Et c'est vrai qu'en France, on n'aime pas beaucoup l'échec, alors que c'est quand même le seul moment où on apprend quelque chose.
Pour terminer, mon cher Antoine, le plus beau métier du monde, c'est quoi ? C'est ambassadeur, pâtissier ou chef d'entreprise ?
Donc ça, c'est effectivement quand j'étais jeune, mes rêves. Pâtissier, je peux aujourd'hui goûter ce qu'ils produisent, donc c'est pas mal. Ambassadeur, j'y suis pas allé parce que... aujourd'hui, on le voit bien dans les crises que l'on voit, les présidents des différents pays se débrouillent tout seuls. Et donc, mon idée d'ambassadeur, quand j'étais à Sciences Po, était une idée de dire qu'on pouvait avoir un rôle économique et donc aider les entreprises.
Et là, vous êtes déçu. Vous dites que finalement, compliqué.
Et je me dis que les initiatives privées peuvent y arriver tout aussi bien. Et donc, chef d'entreprise, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que je suis... à mes yeux, vraiment, même si j'étais avant directeur général depuis quelques années d'Inextinso, je suis vraiment chef d'entreprise depuis 3 ans, depuis notre LBO.
Et actionnaire.
Puisque plus en risque et devant rendre des comptes aux uns et aux autres. Mon métier d'avant, puisque j'étais commissaire aux comptes de grands groupes, j'ai eu l'occasion de pouvoir regarder ce que faisaient des très grands patrons dans des moments... facile et moments difficiles pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je me sers aussi de ça. Voilà, je suis un chef d'entreprise épanoui.
Heureux et peut-être un futur pâtissier. Merci beaucoup Antoine 1, Antoine 2 et Arnaud. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.